Bonjour chers auditeurs, comme chaque premier mercredi du mois, nous retrouvons l'association Clair d'Étoiles. Aujourd'hui, c'est Pascal qui va d'abord vous parler du ciel de juillet et d'août. Ensuite, il sera question dans le focus de la façon dont l'être humain a observé le ciel au fil des temps. Bonjour Pascal.
Bonjour Sylviane.
Et que nous réserve le ciel pour ces deux mois d'été ?
Du dimanche 11 au mercredi 14 juillet, on pourra suivre au crépuscule, une heure et demie après le coucher du soleil, horizon ouest-nord-ouest, le rapprochement des planètes Vénus et Mars. Et ces deux planètes seront accompagnées le 11 et le 12 par un jeune croissant lunaire. Samedi 24 juillet, 2 heures après le coucher du soleil, la pleine lune brillera au sud-est, surmontée par Saturne. Dimanche 25 juillet, ce sera au tour de Jupiter d'accueillir la Lune, un peu moins ronde sur sa droite. Elle accompagnera ainsi Jupiter jusqu'au lever du Soleil. Vendredi 30 juillet, maximum de l'essaim des Capricornides. Ces étoiles filantes, peu nombreuses, semblant venir de la constellation du Capricorne, d'où leur nom, sont lentes et parfois très brillantes. Elles seront visibles dans de bonnes conditions cette année dès le croissant de Lune couchée. Mardi 10 et mercredi 11 août, 1 heure après le coucher du soleil, une jeune lune et Vénus sont installées au-dessus de l'horizon ouest. À ne pas manquer, bien sûr, dans la nuit du 12 au vendredi 13 août, le maximum de l'activité de l'essaim des Perséides. Vendredi 20 et samedi 21 août, la lune gibbeuse presque pleine est visible au sud-est dès le coucher du soleil. Lorsque le ciel s'assombrit, Saturne et Jupiter apparaissent. Le trio sera observable jusqu'à la fin de la nuit.
Et quelles seront alors les planètes visibles pendant les mois de juillet et d'août ?
Mercure, à l'aube, à l'est-nord-est avant le 20 juillet, ensuite très difficile à voir. Vénus, au crépuscule, à l'ouest-nord-ouest. Mars, au crépuscule, à l'ouest-nord-ouest, avant le 15 juillet, ensuite inobservable. Jupiter, toute la nuit, de l'est-sud-est au sud. Saturne, toute la nuit, du sud-est au nord-sud-ouest. Au sud-sud-ouest, pardon. Et à noter dans vos agendas, vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 et samedi 14 août, nuit des étoiles, organisée par l'association Clair d'Étoiles à Chassier. Avec au programme, une exposition sur la météorite de Juvinas, et observation du ciel à l'œil nu et aux instruments. Vous trouverez tous les détails sur le contenu et l'organisation de cette manifestation sur le site de Clair d'Étoiles. Attention, pour des raisons sanitaires, la réservation sera obligatoire.
Alors passons maintenant au focus du jour. Depuis quand l'être humain a-t-il observé le ciel et comment le sait-on ?
Il paraît évident que l'humain de la préhistoire, vivant en permanence en plein air, a forcément remarqué certains phénomènes astronomiques. Le lever et le coucher du soleil, la durée du jour et de la nuit, les phases de la lune. Par exemple, tout le long de l'année, le lever et le coucher du soleil n'ont pas lieu chaque jour à la même heure et au même endroit. Par contre, chaque année, le soleil revient au même endroit. Deux points sont particulièrement importants. Le solstice d'été, pour le jour le plus long, et le solstice d'hiver, pour le plus court. Il est très facile, à partir d'un point fixe, de viser l'horizon et de le marquer avec un objet, un bâton ou mieux une pierre dressée, la direction dans laquelle apparaît le soleil à son lever ou disparaît à son coucher. Aujourd'hui, il est clairement établi que des sites mégalithiques, comme celui de Stonehenge en Angleterre, ont servi d'observatoires astronomiques. Autre exemple, en Bretagne, la table des marchands à Locmariaquer, l'ombre du menhir au coucher du soleil venait frôler l'entrée du dolmen au solstice d'hiver. Et il y a beaucoup de sites comme cela à travers le monde. Il reste vrai que nous n'avons pas de traces écrites et qu'il est difficile de connaître le rôle exact de ces endroits. Mais sans remonter à la préhistoire, certaines civilisations antiques ont laissé des traces écrites, comme les Égyptiens.
Alors, quelle était l'utilité de connaître ces dates ?
Tu viens de parler de dates, c'est-à-dire de calendrier. Il ne s'agissait pas, du moins à cette époque, d'établir un calendrier aussi précis que celui que nous utilisons, mais de pouvoir connaître l'arrivée de certains phénomènes se produisant de façon cyclique. Par exemple, qu'est-ce qui était important pour les Égyptiens ?
Les crues du Nil, bien sûr, essentielles à l'agriculture. Mais comment peut-on associer un phénomène astronomique à des événements qui se déroulent sur notre planète ?
Les Égyptiens avaient remarqué que lorsqu'une étoile très brillante, la plus brillante visible dans l'hémisphère nord, apparaissait dans le ciel juste avant le soleil, cela annonçait le début des crues du Nil. Cette étoile, c'est Sirius, et ce phénomène s'appelle le lever héliaque de Sirius, que les Égyptiens appelaient Sotis.
Le calendrier était donc la principale utilité de l'observation du ciel ?
Non. Les humains étaient persuadés que tout ce qui se passait dans le ciel avait une influence sur leur vie terrestre.
Mais alors ça, c'est de l'astrologie.
C'est vrai. Et pendant longtemps, le but principal de l'observation du ciel l'a été à des fins astrologiques. Pour cela, on a cartographié le ciel, groupé les étoiles en constellations. Cette cartographie a permis de constater que parmi tous ces points fixes que sont les étoiles, il y en avait quelques-uns qui se déplaçaient, d'où le nom de planètes, astres errants. Parmi ces constellations, celles du zodiaque, qui ont la particularité de se trouver dans le plan d'orbite de la Terre autour du Soleil, et ainsi d'être visitées au fil de l'année par le Soleil et les planètes. Pendant longtemps, l'observation du ciel s'est limitée à une observation de position. Pour cela, ont été inventés des instruments, comme l'astrolabe, qui permettent de mesurer des angles. Tycho Brahe, au XVIe siècle, dans son observatoire d'Uraniborg, aujourd'hui en Suède, et ses instruments gigantesques nécessitant plusieurs hommes pour les manœuvrer, a permis de recenser plus de 1000 étoiles avec une grande précision.
Mais l'astrologie, alors, n'était pas le seul but.
Non, bien sûr. L'autre intérêt était scientifique, comprendre le monde qui nous entoure. Mais longtemps, surtout pour des raisons financières, les astronomes ont été aussi astrologues.
Et alors, quel a été le stade suivant ?
L'invention de la lunette astronomique.
Galilée ?
Oui, Galilée, bien qu'on lui attribue à tort l'invention de cet instrument. Mais c'est lui qui en a développé l'utilisation à des fins astronomiques.
Et alors, quel en est le principe de fonctionnement ?
Une lunette se compose d'un tube principal, au bout duquel est fixée une lentille servant d'objectif et permettant de capter la lumière. Et de l'autre côté, un petit tube coulissant à l'intérieur du premier, sur lequel est fixée une lentille plus petite servant d'oculaire. Plus le diamètre de l'objectif sera grand, plus on pourra capter de lumière, et plus le tube sera long, plus on pourra voir de grossissement. Une des premières lunettes, utilisée par Galilée, avait un objectif de 51 mm et permettait un grossissement de 14 fois. Depuis, des instruments plus importants ont été construits. Et en particulier, la lunette montrée lors de l'exposition universelle de Paris en 1900, dont l'objectif mesurait 1,25 m et la longueur 57 m, dimension qui la rendait inutilisable pour des recherches scientifiques.
Alors, comment obtenir des instruments performants ?
Une des difficultés pour réaliser des lunettes de grande dimension est la fabrication des lentilles, qui ont deux faces à usiner. Et Newton est arrivé avec le télescope.
Mais alors, quelle différence entre lunettes et télescope ?
Un télescope se compose d'un tube, au fond duquel il y a un miroir sphérique ou parabolique. La lumière entrant par l'autre côté du tube est réfléchie par le miroir sur un petit miroir installé près de l'entrée du tube et incliné à 45 degrés. Ce dernier miroir renvoie la lumière vers l'oculaire situé sur le côté du tube. On n'a plus qu'à mettre son œil sur l'oculaire pour observer les merveilles du ciel. Le miroir présente l'avantage de n'avoir qu'une face à usiner et permet ainsi la fabrication d'instruments de plus grande dimension. L'astronome allemand William Herschel, découvreur de la planète Uranus en 1781, construisit un télescope de 1,22 m de diamètre en 1789. Ce fut le plus gros télescope du monde jusqu'en 1845. Ensuite, ce fut l'escalade vers des appareils de plus en plus imposants. En 1917, le télescope du mont Wilson aux États-Unis, avec son miroir de 2,50 m, permit à Edwin Hubble de mettre en évidence l'expansion de l'univers. En 1949, toujours aux États-Unis, au mont Palomar, avec un miroir de 5 mètres, ce télescope resta longtemps le plus grand au monde. Maintenant, le diamètre des plus grands télescopes atteignent les 10 mètres.
Et alors, comment est-ce qu'on utilise de tels instruments ? Je suppose qu'on ne se contente pas de mettre l'œil à l'oculaire juste pour admirer les beautés de l'univers.
C'est tout à fait vrai. Et un des premiers outils qui a permis de grandes avancées est l'arrivée de la photographie. Il devenait possible, en faisant de longues pauses, d'augmenter la sensibilité des instruments et aussi, en prenant des images d'une même zone, de constater des évolutions, même minimes. Au début des années 1900, l'université de Harvard employait des équipes de femmes pour analyser ses plaques photographiques. Henrietta Leavitt, une de ses observatrices, a permis d'établir une loi sur la périodicité des étoiles variantes et ainsi d'en mesurer la distance. Un autre outil a été le spectrographe, qui décompose la lumière, comme les gouttelettes d'eau sur la lumière du soleil, pour former de magnifiques arcs-en-ciel. Cette décomposition permet d'analyser la composition des astres observés. Mais aussi grâce à un phénomène identique à l'effet Doppler, qui fait que le son d'une sirène nous semble plus aigu quand elle s'approche de nous et plus grave lorsqu'elle s'éloigne, on a constaté que les raies spectrales des galaxies lointaines se décalaient vers le rouge, et ainsi a été mise en évidence l'expansion de l'univers.
Alors, est-ce qu'il y a des limites à la dimension des télescopes ?
La fabrication de tels instruments devient difficile et très onéreuse. Une solution est plutôt qu'un miroir unique d'assembler une mosaïque de miroirs de forme hexagonale. Ainsi, un télescope avec un miroir de 39 mètres de diamètre, composé de 798 miroirs de 1,40 m, devrait être mis en service en 2024 au Chili. Cependant, il subsiste un autre problème. L'atmosphère terrestre dont les turbulences font que les étoiles brillent dans le ciel. C'est pour cette raison que tous ces grands télescopes sont installés en altitude pour diminuer l'épaisseur de la couche atmosphérique. Et bien sûr, à l'écart de la pollution lumineuse des grandes agglomérations. Par exemple, dans le désert d'Atacama au Chili, ou au sommet du volcan Mauna Kea, Hawaï, à 4200 mètres d'altitude.
Et pour s'affranchir de l'atmosphère terrestre, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement envoyer des télescopes dans l'espace ?
Tout le monde a bien sûr entendu parler de Hubble, lancé en 1990. Il a un miroir de 2,40 m. On a tous en mémoire la photo de nuages de poussière prise dans la nébuleuse de l'Aigle et baptisée les piliers de la création, car c'est une pouponnière d'étoiles. Son successeur sera le télescope James Webb, dont le lancement est prévu pour la fin de l'année 2021. Il aura un miroir de 6,50 m. Pour être mis en orbite, il devra être plié pour rentrer dans la coiffe d'un satellite et redéployé dans l'espace. Une véritable prouesse technique.
Est-ce que nous avons fait aujourd'hui le tour de tous les moyens d'observation du ciel, alors ?
Non, évidemment. Nous n'avons traité qu'une petite partie, à savoir ce qui était visible, et n'est qu'une faible part du rayonnement électromagnétique, rayonnement qui va des ondes radio aux rayons gamma en passant par les rayons X, les rayons infrarouges et ultraviolets et les rayons lumineux visibles, et qui nécessite d'autres types d'instruments, comme les radiotélescopes, qui sont d'immenses antennes.
Alors, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. En attendant, nous vous donnons rendez-vous début septembre avec Clair d'Étoiles sur Fréquence 7.